Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Bercoff, Céline Alonso.
Primo Levi a écrit en 1947 « Les monstres existent, mais ils sont trop peu nombreux pour être vraiment dangereux. Ceux qui sont plus dangereux, ce sont les hommes ordinaires, prêts à croire et à obéir, sans discuter. » Ouais. Tout n'est que question d'angle, de force et d'emprise. La guerre, c'est le terrorisme des riches. Les lois, c'est le vainqueur qui en écrit les mots. L'État, c'est la mafia avec un drapeau. Pouvoir au peuple.
Et vous avez reconnu, évidemment, c'est Akhenaton et c'est le groupe IAM, le groupe de rap le plus connu en France et ailleurs d'ailleurs. Chanson extraite de Rimes Essentielles, le dernier album d'IAM. Et aujourd'hui, effectivement, on va parler avec Akhenaton de l'actualité, de cette gestion du Covid dont on a eu les derniers échos avec Jean Castex et Olivier Véran hier soir. Et puis nous allons parler de la résistance éternelle aussi. Résistance incarnée par un génie absolu de tous les temps, dont on fête le 400e anniversaire. Évidemment, vous avez compris, je parle de Jean-Baptiste Poquelin, plus connu sous le nom de Molière, avec Martial Poisson, professeur d'histoire culturelle et d'études théâtrales à l'Université Paris 8, qui est commissaire de l'exposition Molière, La fabrique d'une gloire nationale qui a lieu à Versailles jusqu'au 17 avril. Le catalogue pourrait l'avoir au seuil, mais surtout, je voudrais dire que ce qui est vraiment intéressant, c'est que de Akhenaton et de IAM à Molière, il y a ce qu'on appelle la résistance. Et celle-là, elle ne faiblit jamais. Heureusement.
Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Bercoff, Céline Alonso.
Molière est la plus claire expression du génie de notre race. Car sublime ou burlesque, il ne cesse jamais d'être le bon sens même. Molière est parmi les grands hommes celui dans la France pourrait le moins aisément se passer. Molière est nécessaire. Il est une preuve permanente. Et l'on a constamment l'occasion de clouer le bec à des gens qui voient faux en leur disant « Eh bien, et Molière ?» Quand on parle d'un homme que l'on admire et que l'on aime sans réserve, quand on s'exprime sur son compte en termes éperdus, quand on n'a plus de mots qui semblent assez forts ni qui soient assez tendres, quand les gestes s'en mêlent et qu'on lève les yeux au ciel, il se trouve toujours quelqu'un de pondéré pour briser votre élan et pour insinuer « Ce n'est tout de même pas le bon Dieu ». Cette observation vient mettre au point les choses et vous laisse interdit, car de toute évidence...
Vous avez compris, vous avez reconnu un autre très grand auteur, Sacha Guitry, qui parle d'un génie, évidemment, Molière. Molière raconté par Guitry. Mais Molière, vous savez, c'est même pas le patrimoine national. Je dirais presque que c'est le patrimoine mondial de l'humanité, évidemment patrimoine français. Et quand je pense que certains, bon, ils s'en foutent, et nous aussi, surtout lui, Molière, il s'en fout. Mais quand on pense qu'on discute de savoir s'il faut panthéoniser Molière, alors que sa place est évidemment dans un monument comme le Panthéon, c'est une autre histoire. En tout cas, je rappelle qu'à la Comédie Française, rien qu'à la Comédie Française, depuis 1680, les pièces de Molière ont été jouées plus de 35 000 fois, Céline.
Et oui, et on va en parler avec Martial Poisson, qui est professeur d'histoire culturelle et d'études théâtrales à l'Université Paris 8. Il est également donc commissaire de l'exposition Molière à la fabrique d'une gloire nationale qui a lieu actuellement donc à Versailles. Bonjour à vous, Martial. Alors, avant de vous donner la parole, eh bien, nous allons la donner à un artiste qui a un grand défenseur de la langue de Molière, c'est Akhenaton, le leader du groupe IAM qui a publié il y a une semaine une tribune libre intitulée « Le maître et ses perroquets » dans laquelle donc il s'élève contre la politique sanitaire du gouvernement et contre ceux qui la soutiennent et la relaient. Bonjour à vous, Akhenaton.
Bonjour.
Alors on aimerait savoir avec André Bercoff, qu'est-ce qui a motivé ce texte ?
Je voudrais d'abord juste, Akhenaton, lire le début et la fin du texte. Vraiment, que je recommande de lire sur les réseaux sociaux, il est formidable. Vous dites ceci, je ne veux pas lire tout, je lis le début et la fin. Il dit, et tous ceux et celles qui s'étonnent de mes positions clivantes en se disant fan du groupe IAM, vous avez sûrement dû vous arrêter à Je danse le Mia, mais vous ne semblez pas connaître les positions que nous défendons dans de nombreux textes depuis 30 ans. Amis journalistes, docteurs, chercheurs, artistes et citoyens, c'est dans les temps difficiles qu'on affirme ses positions, qu'on prend des risques. Ce n'est pas lorsque tout est fini qu'on distille des « je le savais, mais je ne pouvais rien dire ». À titre personnel, professionnellement parlant, je n'ai rien à gagner en prenant position en tant que père, ami et mari. Je ne peux pas me taire. C'est une question d'honneur, de bon sens, d'honnêteté et de cohérence avec 30 ans de texte. Et vous finissez en vous adressant directement à Kenaton, au président. Et vous dites, monsieur le président, vous êtes en campagne, gros, visible, pas de gants, pas grave, personne ne dit rien, surtout pas les perroquets. Nous aurions pu bâtir dans la difficulté de cette crise une société plus solidaire, plus empathique et plus unie. Vous avez fait de cette période un modèle de division, de haine et d'individualisme. Alors, Akhenaton, pourquoi donc ? Pourquoi maintenant ?
Oui. Justement, on est à un tournant où on est au moment où s'applique le pass vaccinal et on est dans une sorte d'escalade complètement déraisonnable de mesures qui n'ont plus aucun rapport avec l'observation scientifique, avec ce qui se passe. On est tous conscients que dans la vie, il faut faire attention, il faut prendre des mesures quand on est face à des difficultés, à des crises, à des problèmes, mais quand même, là, on est... Typiquement, alors, au départ, j'ai réagi par rapport à la tribune du professeur Grimaldi que j'ai trouvé absolument terrible, de dire qu'on ne prendrait pas en charge certaines personnes. Donc, on rentre dans une logique qui est
complètement... Et qui n'ont qu'à payer eux-mêmes leurs soins. Oui, c'est ça.
Ouais, je trouve ça terrible. Après, c'est la situation elle-même qui me dérange. Il y a deux choses qui me dérangent énormément. La première chose qui me dérange, c'est la prise en otage de la liberté. C'est-à-dire qu'on va vous priver de votre liberté. On va la retenir en otage, puis on va dire, voilà, je vous la rends, mais à cette condition-là, Mais qui définit les conditions ? Est-ce qu'elles sont définies dans une crise sanitaire par des observations scientifiques ? Non, la quasi-totalité des mesures, maintenant, on le sait, on observe les autres pays européens, elles sont politiques. Donc ça, c'est la première chose. Et vous le savez, on en a parlé en off, mais j'en ai parlé plusieurs fois dans des interviews. Nous, on se bat pour qu'il y ait les soins de proximité, pour que les docteurs généralistes reprennent leur place, soient au contact des gens, puissent appliquer des soins. Vous savez, ce qui m'inquiète, donc, vis-à-vis de ces deux choses-là, c'est le mécanisme qui est en place pourra, si les gens le valident par la peur, pourra se répéter dans des tas d'autres occasions, c'est-à-dire dans des tas de crises sanitaires, mais dans des crises politiques, lors d'actes terroristes, avec peu importe quoi que ce soit. Moi, ça me fait peur que j'ai peur à un moment donné qu'on nous sorte systématiquement la carte de la privation de liberté pour des raisons qui nous dépassent.
Vous dites effectivement à propos de la peur que c'est la pire des pandémies mondiales, selon vous.
Pour moi, c'est le fait que les gens soient terrorisés, c'est normal, parce qu'ils sont bombardés tous les jours d'informations contradictoires, fait qu'ils ne peuvent pas raisonner. Et quand on a peur, on ne prend jamais les bonnes décisions. La deuxième chose qui m'effraie, c'est, vous savez, ont été définis un peu, et pas du tout, alors avec des termes ignobles depuis le début, parce que le terme complotiste m'énerve au plus haut point.
Il y a de quoi.
Voilà, il y a de quoi. Il y a quand même des docteurs et pas seulement des bricoleurs, c'est-à-dire des sommités mondiales qui ont défini des possibilités d'alternatives de soins à travers l'ivermectine, l'azithromycine, la chloroquine et la possibilité d'avoir de la prévention avec de la vitamine D, vitamine C. À ce jour, le 13 janvier a été interdite la chloroquine qui était administrée depuis 60 ans.
13 janvier 2020. Je rappelle.
13 janvier 2020.
Il y a deux ans.
L'ivermectine, dont la personne qui l'a découverte a eu le prix Nobel, a été interdite aussi. Ça sert accessoirement à soigner la gale, mais apparemment, il y a des très bons résultats. Il y a énormément, des centaines d'études qui montrent son efficacité. L'azithromycine, depuis le 13 décembre 2021, en prescription, est surveillée. C'est-à-dire, chaque médecin qui prescrit de l'azithromycine, maintenant, doit justifier de sa prescription. OK, ça fait plusieurs années. Et on s'est aperçu que tranquillement, on a glissé au Sénat une possibilité d'interdiction de la vitamine D qui serait un perturbateur endocrinien et que tous les docteurs prescrivent aux enfants, aux personnes âgées. Nous sommes globalement une population en manque de vitamine D, mais ce gouvernement fait passer une loi pour l'interdire. Mais je pose une question. Pourquoi interdire des substances qui apparemment ou fonctionneraient dans le cadre de cette crise sanitaire, les interdire et les déclarer comme nocives alors qu'elles sont prescrites et données à la population depuis de nombreuses années et réduisent le champ de la possibilité de soins alternatifs, c'est-à-dire qu'il existe quelque chose entre l'antalgique à la maison et le vaccin.
Oui, mais enfin, voilà. Akhenaton, vous connaissez la réponse. La réponse, c'est que vous allez pas quand même vous opposer, soyons sérieux, entre des traitements qui coûtent 5 euros et d'autres traitements qui en coûtent 1000. Allons, soyons sérieux.
C'est le nœud du problème. Et puis, il y a d'autres problèmes qui se révèlent dans cette crise.
Là, il se passe, il y a des sifflements. Mais je vous en prie, allez-y, Akhenaton. Ah, on n'entend plus Akhenaton, là. On a un petit problème de
son. Des lois.
Voilà. Non, on n'entend plus, il y a un problème de son. Alors,
on va donner la parole à notre invité Martial
Poisson. Pour le moment, on va faire une petite pause publicitaire et après on reprend.
C'est à 4h.
Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Bercoff, Céline Alonso.
Voilà, au voleur, assassin, au meurtrier, justice, justicielle. Je suis perdu, je suis assassiné. On m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Qui peut s'être ? Qu'est-il devenu ? Où est-il ? Où se cache-t-il ? Ah ! Que ferai-je pour le trouver ? Au courrier ? Ou ne pas courrier ? N'est-il point là ? N'est-il point ici ?
Mais quel avare ! Louis de Funès ! Louis de Funès, 1980, le film éponyme absolument. Et l'avare, évidemment, encore une fois, ce chef-d'œuvre, parmi tellement de chefs-d'œuvre de Molière, qui est né il y a 400 ans.
Et oui, André Bercoff, et il est l'auteur de langue française le plus lu, le plus joué, le plus traduit dans le monde entier. On en parle avec Martial Poisson, qui est commissaire de l'exposition Molière, la fabrique d'une gloire nationale, qui a lieu à Versailles jusqu'au 17 avril, et dont le catalogue paraît donc aujourd'hui aux éditions du Seuil. Alors Martial Poisson, comment expliquer la popularité de Molière en France, 4 siècles après sa naissance ?
Alors Molière est déjà une immense star de son vivant. On peut considérer que c'est la première vedette du théâtre français moderne, à la fois par l'ampleur de la presse qui s'exprime à son égard à l'époque, les fameuses gazettes qui ne cessent de chroniquer les moindres détails de sa vie et de son œuvre, à la fois par le concert unanime des éloges, ou quasi unanime à l'exception de Boileau, qu'on cite toujours justement pour expliquer qu'en fait Molière n'écrit pas si bien que ça. Mais sinon, en dehors de ça, tous les autres auteurs et comédiens reconnaissent une sorte de perte irréparable, il y a une sorte de deuil national qui se met en place, et à partir de là, tous les écrivains qui lui succèdent, et qu'on appelle d'ailleurs ironiquement les post-moliéresques, vont presque s'excuser de faire du théâtre en disant ça sera pas si génial, mais il faut bien qu'on continue à faire de l'art. Et pareil pour les comédiens, avec d'ailleurs un personnage de Molière qui souvent arrive sur scène sous forme d'ombre et qui distribue les bons et les mauvais points. Donc voilà, il y a déjà ce phénomène extrêmement particulier dans l'histoire culturelle et qui s'est ensuite perpétué à travers ce qui est devenu vraiment une légende, voire un mythe national.
Alors justement, qu'est-ce qui fait qu'il est devenu effectivement ce mythe littéraire, Molière ?
Alors il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que c'est le premier auteur à convoquer dans l'univers de la comédie l'ensemble des classes sociales dont il a pu observer les traits de caractère, les habitudes de langage. Quand Molière fait parler un paysan picard, il parle en langage picard. Quand Molière fait parler un grand de l'aristocratie, eh bien, il parle ce langage qu'il singe un petit peu par sa comédie et dont l'aristocrate qui assiste à son théâtre est censé se moquer. Donc il y a tout un jeu comme ça, une sorte de pas de comédie humaine avant la comédie humaine, à laquelle d'ailleurs Balzac rendra justice 2 siècles plus tard en disant « Tout est dans Molière, je ne fais que traduire et on va essayer de continuer à faire quelque chose, mais l'entreprise est déjà là ». Donc il y a ça. Et puis le deuxième aspect, c'est l'invention de langues qui est quand même assez inouïe et dont on continue à s'étonner aujourd'hui de l'actualité, finalement, une langue qui n'a d'une certaine manière pas perdu une ride et qui là aussi s'enracine à la fois dans la tradition la plus populaire de la farce, et dans les genres qui deviendront ensuite l'opéra français, la comédie, euh, la, comédie-ballet, dont il est avec Lully l'un des inventeurs, et qui est une sorte de théâtre rimé, dansé et chanté, qui porte très très...
Il a vraiment inventé ça.
Ah oui, il l'a inventé à la demande de son roi à l'époque pour participer aux grandes fêtes royales, dont il est par ailleurs une sorte de maître de cérémonie à partir, en tout cas de son retour à Paris.
Alors s'il est devenu un mythe, Molière, c'est aussi parce qu'il a laissé en quelque sorte très peu de traces de lui à sa mort.
Exactement, la nature a horreur du vide. Alors c'est pas en fait unique, hein, à l'époque, la question du manuscrit d'auteur se pose pas comme elle se posera à partir du 19e siècle, où on va conserver la moindre rature de comédien. Ça c'est une invention qui existe beaucoup plus tard. À l'époque de Molière, l'écrivain est d'abord une sorte... Enfin, d'ailleurs, il se définit pas comme écrivain. En fait, Molière, toute sa vie, il revendique l'étiquette de directeur de troupe, de comédien, de metteur en scène, même si le terme n'existe pas.
Mais d'auteur aussi, ou pas du tout?
D'auteur à la marge, ou en tout cas, on prend par exemple la préface des Précieuses Ridicules, il explique que, normalement, il faudrait pas publier du théâtre et qu'il ne le publie que pour pouvoir rendre ce texte disponible à d'autres, et court-circuiter les contrefaçons qui sont très nombreuses et qui s'emparent des pièces un petit peu comme aujourd'hui dans les cinémas. Hein. On va noter à la volée la pièce pour pouvoir ensuite l'éditer de façon clandestine. Donc il explique que voilà, c'est pour contrôler d'une certaine façon la diffusion de son texte qu'il publie et non pas pour faire un monument littéraire. Ouais. Ça, c'est vraiment,
ouais. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à sa mort, on a retrouvé très peu, pratiquement pas de correspondance, pas d'édition de ses œuvres complètes non plus.
Oui, alors, de nouveau, c'est pas rare à l'époque. Molière a 4 enfants, dont une seule fille subsiste, Esprit Madeleine, qui rentre dans les ordres.
Magnifique. Esprit oui, Madeleine, voilà. Quel prénom.
Elle était nonne.
Et qui donc, du coup, voyait d'un assez mauvais œil son ascendance, hein, quand même, devenir une famille de comédiens à une époque où l'Église catholique excommunie les comédiens. Donc, elle n'a pas eu de soucis de la mémoire, au même titre que, par exemple, les fils de Racine, qui ont voulu conserver tout ce qu'ils pouvaient garder du père. Et contribuer finalement à... Donc ça, c'est une des raisons. L'autre raison, c'est que Molière fait partie d'une troupe qui est aussi une famille, qui est une communauté de vie. Donc on ne voit pas très bien pourquoi il aurait éprouvé le besoin d'écrire à des gens qu'il fréquentait tous les jours dans la relation de travail. Hein. Ce n'est pas un écrivain dans la solitude de son bureau qui va converser avec d'autres écrivains qui sont ailleurs. C'est quelqu'un qui est inscrit de plein pied dans ce collectif. Et puis la troisième raison, c'est qu'il participe à ce qu'on appelle à l'époque la culture galante, c'est-à-dire la culture des salons, la culture des cercles littéraires, des salons féminins, où il est de bon ton de dire que ce qui compte, c'est l'art de la conversation, c'est ce qui se passe en présence, et il n'y a pas forcément besoin de laisser de traces de son génie.
Donc voilà, ce qu'il appelait les commodités de la conversation.
Voilà, exactement, exactement.
Oui, en quelque sorte, à l'époque, éditer ces pièces, on dit que ça aurait été jugé arrogant, disait-on.
Oui, alors c'est une posture d'auteur, évidemment, feindre une certaine indifférence à l'égard d'un travail dont on connaît la valeur. Molière connaît parfaitement sa valeur, on le voit à travers sa stratégie, on le voit à travers la façon dont il renchérit sur toutes les cabales assez nombreuses dont il fait l'objet. Hein, à chaque fois, il est toujours dans une stratégie offensive, donc il a parfaitement
conscience. Parce qu'on essaie de le détruire auprès de la cour, auprès du roi, etc.
Voilà, ce qui ne marchera jamais et qui va au contraire amplifier sa réputation. On peut dire d'une certaine façon qu'il savait faire le buzz, puisque chaque scandale entraîne un surcroît de visibilité, un surcroît de notoriété, et qu'il sort toujours victorieux finalement de la polémique avec ses contradicteurs. Mais bon, l'élégance de Molière, c'est par exemple d'écrire l'impromptu de Versailles pour répondre à la critique des comédiens concurrents, et de même pas la faire imprimer. Donc voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, tout le monde l'a entendu, maintenant il n'y a pas besoin d'en rajouter en éditant. Donc c'est une espèce de désinvolture, en fait, qui est une arme politique tout à fait redoutable.
Le roi, à l'époque, l'a un peu protégé, quand même.
Le roi l'a même beaucoup protégé, en fait. Hein. Il devient, à partir des années 1660, le grand retour à Paris, il devient très vite le favori du roi, à la fois comme organisateur des divertissements de cours et des grandes fêtes royales, qui pouvaient durer jusqu'à 8 jours. Je rappelle que les plaisirs de l'île enchantée en 1664, c'est 8 jours de fête totale.
8 jours ininterrompus.
Ininterrompus, jour et nuit, qui se termine.
Quel temps, par, quelle époque.
Voilà, et ça se termine par Tartuffe, qui, pour le coup, va mettre fin de façon assez brutale aux festivités et entraîner une véritable affaire d'État. Donc, c'est l'artiste officiel. Mais en même temps, ça n'est pas non plus un courtisan. Un favori n'est pas courtisan. Il n'y a pas de compromission, il n'y a pas d'écriture sous la commande, même s'il met en scène la commande du roi dans ses pièces.
Mais justement, comment vous expliquez qu'il se mette en danger? Comment vous expliquez qu'il quitte sa zone de confort, auteur magnifique, auteur comme favori du roi, donc favori, et qu'il fait le Tartuffe? Il devait savoir qu'il allait quand même avoir un certain nombre de fourches et de lances contre lui.
Je pense que la cabale du Tartuffe a quand même surpris tout le monde, à commencer par le roi qui en avait autorisé la représentation à Versailles, qui n'est pas à l'époque le Palais Royal, mais qui est une résidence, un lieu de villégiature, hein, qui est un petit Versailles par rapport à aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui a été validé. C'est une pièce qui continuera, malgré l'interdiction officielle, à se jouer dans les cercles d'initiés, et que le roi n'a jamais complètement désavoué. Donc, je pense que effectivement, Molière est un immense inventeur de formes. Il se réinvente en permanence, à tel point qu'on pense aujourd'hui encore, parfois sérieusement, que ça n'est pas un, mais plusieurs auteurs, et que derrière lui se cacherait notamment le grand Corneille. Donc, ce
oui.
fantasme.
Alors, cette rumeur vient d'où ?
Bah, cette rumeur, alors, en fait, elle arrive en 1919 de la part d'un.
Ah bon, trois siècles plus tard.
Oui, presque, oui, 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 mais en fait. Le débat sur l'attribution de son œuvre, il est un peu récurrent, mais en 1919, il y a un article dans la revue Comédia d'un espèce de dandy qui lui-même joue sur les usurpations d'identité, enfin voilà, qui fait cette hypothèse en disant un tiers de l'œuvre de Molière n'est pas de lui, et ça s'explique par le fait qu'il y a une telle diversité de styles, de registres, il y a une telle inventivité qui va d'ailleurs du comique le plus populaire jusqu'à une forme de tragédie, ce qu'on entendait tout à l'heure magnifiquement interprété par Louis de Funès, Lava. Bah, est oui. un personnage tragique par son obsession, par sa folie, par cette scène incroyable où il se retrouve quasiment enterré vivant dans le trou laissé béant par sa cassette qui a disparu. Enfin voilà, le misanthrope est aussi un grand personnage tragique. Non. Donc voilà, cette capacité à tenir ensemble tous les registres de langue, c'est unique probablement dans la langue française. On en a déjà conscience à l'époque, et ça motive évidemment l'idée qu'il faudrait en fait plusieurs plumes pour concourir.
Mais
à...
c'est faux. À votre
oui,
avis.
C'est faux, c'est complètement faux. Oui, là, l'édition de ses œuvres a été tout à fait authentifiée.
Oui, il y a eu plusieurs études scientifiques sur
oui,
cette recherche.
Oui, ça revient
de
façon récurrente.
Ouais.
Ouais, ouais, ça ouais. revient de façon récurrente. Il y a même des gens qui font des analyses pseudo-scientifiques avec des calculs d'occurrence, qu'utilisent l'informatique pour essayer de montrer que en fait, voilà, il y a plusieurs pattes en fait. Mais non, non. Je crois qu'on peut avoir aucun doute sur... Mais ce qui est intéressant, c'est justement la longévité de ce fantasme et ce caractère extrêmement hybride, en fait, polymorphe et toujours inattendu de l'œuvre.
Alors effectivement, de nombreux fantasmes sur Molière circulent encore aujourd'hui sur lui, notamment celle sur son rapport conflictuel avec son père. Qu'en est-il ?
Oui, alors évidemment, quand on est fils d'un marchand tapissier des Halles, donc qui tient pignon sur rue à Paris, qui a une charge de valet tapissier du roi à la cour, et qu'on est le premier né de la famille, donc celui qui va hériter dans le droit de l'époque, eh bien on peut s'imaginer que le père a été un peu surpris par le choix de carrière de son fils, hein, la carrière de comédien. C'est donc un métier qui est frappé d'infamie par l'Église, qui est considéré comme une sorte de blasphème fait à Dieu, parce que le comédien, il usurpe des identités qui ne sont pas les siennes, enfin voilà. Et puis, il tient discours en public, donc il y a c'est un métier frappé d'opprobre, donc on voit là une espèce de renoncement à la facilité de l'héritage pour suivre une vocation... qui pourrait laisser penser qu'il a été désavoué par son père. Mais en fait, il n'en est rien. Quand Molière, en 1645, fait 2 jours de prison au Châtelet pour dette, c'est son père qui vient renflouer ses dettes et qui va continuer à tenir un mémoire très rigoureux des dépenses et du remboursement de cette dette.
Le père était fier de son fils ?
On ne le saura jamais, puisque le père n'a pas écrit. Mais en tout cas, il n'a jamais abandonné son fils, il ne l'a jamais désavoué. Et quand le deuxième fils, le frère de Molière, meurt, alors que Molière lui avait cédé donc, la charge de valet tapissier, c'est malgré tout Molière qui reprendra cette charge. Donc, il est resté en satellite, en relation avec sa famille. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça biaise complètement la lecture de son œuvre, puisqu'on veut voir dans les personnages de père... qui sont assez nombreux dans le théâtre de Molière, une sorte de vengeance de Molière vengeance, à l'égard de son père, une sorte de psychanalyse à ciel ouvert, ce qui est complètement faux. En fait, pourquoi Molière s'attaque au père ? Parce que le père, c'est la structure fondamentale du patriarcat. C'est la forme suprême de l'autorité dans le foyer. Bien sûr. C'est ça qui est exactement au cœur de la critique politique de Molière. Donc je pense que c'est un raccourci biographique très réducteur que de dire qu'il règle ses comptes par œuvre interposée.
Oui. Alors, autre légende autour de Molière, le fait qu'il soit mort sur scène et enterré comme un chien.
Oui, alors ça, c'est aussi un fantasme qu'on voit
il
encore.
Il n'est pas mort sur scène, en fait.
Non, il n'est pas mort sur scène. Il a été pris d'un malaise et d'un crash à sanglant. Donc, il était atteint d'une pneumonie, en fait, hein, comme des milliers de Parisiens de la même année qu'ils en sont morts, un hiver très rigoureux. Donc il a été ramené chez lui à quelques rues de là et il est mort un certain nombre d'heures plus tard, hein, puisqu'à l'époque on joue en fait en après-midi. Donc quand on dit qu'il est mort dans la nuit, c'est-à-dire qu'il s'est passé quand même du temps entre les premiers signes de faiblesse et l'agonie. Mais cette mort a malgré tout surpris tout le monde par sa brutalité. Les gazettes de l'époque l'expriment comme ça, comme quelque chose de tout à fait inattendu, ce qui remet en cause un autre mythe qui serait la longue maladie de Molière, se guérissant lui-même par ce thème obsessionnel de la maladie dans ses pièces. Bon, en fait, il n'en est rien, il n'y a aucune trace, notamment de... Il y a très peu de moments où Molière ne joue pas les soirs de représentation où il était prévu, ce qui prouve plutôt une très bonne santé pour l'époque. Il a une interruption pour aller enterrer Madeleine un an, d'ailleurs jour pour jour avant sa mort, donc il y a très peu de signes de ça.
Et ce que disait Céline sur l'enterrement, alors ?
Oui,
alors,
est-ce qu'il a été enterré dignement ou pas, alors ?
Oui, mais alors, au prix d'un tour de passe-passe, c'est-à-dire que dès sa mort... Alors, ce qui est vrai, c'est que... il n'y a pas eu vraiment un grand zèle des hommes d'église à venir le confesser, que la confession à l'époque est exigée pour pouvoir être enterré en chrétien. Il faut renoncer à sa profession de comédien avant de mourir pour pouvoir être réintégré à la communauté de l'église. Il a appelé un prêtre, deux prêtres, et c'est le troisième qui est arrivé trop tard. Donc il y a quand même un problème que sa veuve, Madame Molière, du coup, a réglé en allant directement plaider auprès du roi, en disant, voilà, on ne peut pas laisser... dans l'indignité, quelqu'un qui a eu une telle notoriété et qui a tellement contribué à votre gloire. Et donc, le roi en réfère à l'archevêque de Paris qui autorise un enterrement sans pompe ni cérémonie, selon le terme attitré. Alors, il y a quand même environ 800 personnes qui viennent assister à un cortège funèbre dans la nuit. Et il est enterré sous son nom de baptême. Donc, en fait, ce n'est pas Molière qu'on enterre, c'est Jean-Baptiste Poquelin. Marchand tapissier, c'est ce qui est écrit sur son
cercueil. Jean-Baptiste Poquelin, marchand tapissier.
Voilà. Formidable. Donc, ce qui est vrai, en fait, de fait. Donc, ça règle le problème d'une certaine façon et ça permet de l'enterrer au pied de la croix du cimetière Saint-Joseph, qui a été ensuite détruit. Donc, sa dépouille a disparu, mais pas parce qu'elle aurait été dans une fosse commune dans le carré des indigents, uniquement parce que le cimetière a été détruit plus tard.
Ouais. Alors, de son temps, Molière a eu aussi beaucoup de succès dans le monde. Expliquez-nous les raisons de cela.
Alors, Molière participe activement dans les 13 dernières années de sa vie, quand il est vraiment à la fois extrêmement connu à la ville comme à la cour, à ce qu'on pourrait appeler une politique de la grandeur. C'est la politique de rayonnement culturel de Louis XIV. C'est la naissance, finalement, d'une conception du théâtre et des arts comme outil d'ambassade, à la fois comme... par des réceptions fastueuses. Hein. On a des témoignages très nombreux de toutes les chroniques en Europe qui racontent les spectacles qui se donnent à la cour, la magnificence de la puissance invitante de Louis XIV. Et donc, on se presse comme ça pour venir assister au spectacle. Et puis ensuite, il y a des grandes tournées qui sont organisées et qui vont jusqu'en Russie. Hein. On joue amphitryon à la cour du tsar de Russie. Donc, c'est à ce moment-là que...
Étonnant, de gloire mondiale déjà à l'époque.
Gloire mondiale. Et oui, il est exporté dans toute l'Europe occidentale. Surtout en Russie,
dans toute l'Europe continentale, effectivement, et donc avec un succès qui, d'ailleurs, a beaucoup contribué au positionnement de la langue française comme la langue des élites cultivées de toutes les cours d'Europe pour quasiment deux siècles, en fait.
Et il a été exporté aussi dans toutes les colonies françaises à l'époque.
Plus tard, c'est plutôt au 19e siècle. Au 19e siècle, et en particulier à partir de la Troisième République, donc vraiment la fin du 19e siècle, il devient un outil de propagande pour les instituteurs de la Jeune République. Entre-temps, il a été consacré auteur républicain, ce qui est assez cocasse.
C'est justifié quand on dit la langue française, c'est la langue de Molière.
Justifié, en tout cas, par la diffusion qu'elle a connue, par les implications politiques qu'elle a eues sous différents régimes, par cette association entre Molière et l'esprit français. Là encore, il n'en est pas responsable, mais ça s'est superposé sur son image. C'est sûr qu'il y a de bonnes raisons, et ce qui est intéressant, c'est que ça reste encore très actif aujourd'hui. La langue de Molière reste une expression courante, qui a été reprise d'ailleurs dans la période postcoloniale, et malgré cet héritage, c'est à la fois un auteur qui a été apporté qui a participé à l'instruction forcée d'une certaine façon des indigènes de l'Empire de l'époque, et en même temps qui est resté ensuite, et la ferveur à l'égard de ce théâtre ne s'est jamais démentie jusqu'à aujourd'hui. Il continue à être joué partout, en Afrique du Nord, en Asie du Sud-Est, et dans le monde entier.
Alors effectivement, Molière est considéré comme un auteur populaire alors qu'il a écrit pour l'élite.
Oui,
pour
alors,
quelle raison ?
C'est ça qui est intéressant, c'est que le public de Molière à l'époque, c'est principalement l'aristocratie et la haute bourgeoisie de cour. C'est également les élites mondaines des salons et c'est les théâtres de ville. Mais quand on sait que une place de théâtre, les places les moins chères, c'est-à-dire au parterre, debout, hein, directement, correspondent à peu près au salaire d'une journée de travail d'un artisan. On se dit que le public le plus populaire au théâtre, c'est la petite bourgeoisie, le petit artisanat urbain. Donc, évidemment, on est très loin de ce qu'on appelle populaire aujourd'hui.
Et les nobles.
Et les nobles, qui d'ailleurs, à l'époque, sont sur scène. Il y a des banquettes sur scène avec une partie de la noblesse qui est assise ici. Et c'est ça qui est génial chez Molière, c'est qu'il arrive à prendre d'une certaine façon en otage le public de l'époque en le poussant à rire de lui-même. L'aristocrate se moque des tics de l'aristocrate, en pensant toujours que c'est son voisin, évidemment, qui est visé et pas lui. Le bourgeois qui veut devenir gentilhomme, pour reprendre une pièce célèbre, se moque de ses propres aspirations.
Mais aujourd'hui encore, juste à l'époque du Covid, combien a repris le médecin malgré lui ? Les trisotins, les vadus.
Oui, etc. Tout à fait. Oui. Bon, alors après, il faut quand même se souvenir que la médecine de l'époque, ça n'a rien à voir avec la médecine d'aujourd'hui.
Nous sommes d'accord. Enfin, il y a quelque part des rappels intéressants.
Oui, en tout cas, tous les régimes politiques ont voulu s'approprier Molière. Quels sont les moments essentiels dans la construction de son image donc d'écrivain national ?
Alors, il y en a plusieurs. Le premier moment, c'est la philosophie des Lumières, puisque les philosophes des Lumières vont avoir à cœur de sauver Molière, d'une certaine façon, de ce grand siècle décrit comme celui, justement, des poètes de cour, d'artistes qui seraient un petit peu limités dans leur liberté par une monarchie absolue dite de droit divin. Donc, Diderot, en particulier, dans l'encyclopédie, dit que Molière est un devancier de la philosophie des Lumières et que, comme tel, il doit être considéré comme un moraliste et un philosophe. Et que, donc, son théâtre est une école du peuple. Donc, il y a une sorte de récupération comme ça, très, très nette. Voltaire contribue aussi à en faire, a posteriori, là encore, un classique, d'une façon plus ambiguë, puisque lui-même se positionne. Voltaire, à l'époque, pense être accédé à la postérité par son théâtre. Donc, à la fois, il rend hommage à Molière, et en même temps, il ne faut pas que l'hommage soit trop appuyé, parce que sinon, ça limite à lui sa possibilité d'autopromotion. Voilà, donc on sent qu'il y a aussi cette dimension de faire-valoir. Donc ça, c'est vraiment le premier moment qu'on pourrait appeler la classicisation de Molière, à laquelle succédera au XIXe siècle toute une alternance de régimes qui vont s'en emparer. Quand Louis-Philippe, en 1837, inaugure le musée de Versailles dans l'ancien palais des rois, eh bien, il décide de faire jouer un misanthrope en grande pompe, dont il paye lui-même sur sa cassette les costumes, qu'il va demander à un des plus grands décorateurs, un des plus grands costumiers de l'époque de l'opéra. Et c'est la première fois qu'on joue d'ailleurs Molière en costume dit d'époque, deux siècles après sa mort. Ouais. Ça, c'est un grand moment où Molière devient une sorte d'auteur de la réconciliation nationale. Le but de Louis-Philippe, c'est de dire « je suis la synthèse de tout ce qui s'est passé avant moi, de toutes ces querelles entre révolutionnaires, impérial, enfin, bonapartistes et royalistes. » Et Molière va être le vecteur de cette réconciliation et va nous permettre de faire peuple ensemble. Et c'est exactement ce que fera aussi la Troisième République, mais dans un sens politique très différent, et pas sur les mêmes œuvres, en disant « mais Molière, c'est l'auteur républicain ». Donc il y a une sorte de sacre
républicain. En fait, à chacun ce Molière.
Oui,
c'est,
tout à fait.
C'est l'auberge espagnole du fantasme.
Oui, c'est ça.
Oui, le Molière démocrate, laïque...
Et patriote aussi.
Patriote,
on retrouve Molière dans le théâtre aux armées.
L'héritage d'aujourd'hui,
c'est tout ça. À fait. Entre 1916 et 1918, Molière est joué, ça fait partie des rares auteurs comiques, on joue plutôt des tragédies devant les poilus... en marge des tranchées, dans ce grand mouvement du théâtre aux armées. Il y a des grandes vedettes de l'époque, de la Comédie française, des Folies Bergères, du cinéma naissant, qui vont se produire et qui jouent des pièces, dont plusieurs pièces de Molière. Donc, il fait partie, en fait, de cet arsenal de remotivation du poilu.
Donc, vous dites qu'il n'a jamais quitté la scène, en fait, quelque part.
Aucune interruption de carrière.
Depuis 400 ans, enfin.
Oui, mais au prix, quand même, d'une épuration du répertoire. C'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes pièces. À la fin du 19e siècle, en gros, dans les manuels scolaires, justement, de la Jeune République, on joue principalement les comédies de caractère, qui sont vraiment le cœur du Molière moraliste, laïque et républicain. On voit dans Tartuffe une œuvre... anti-religieuse, qu'elle n'est pas en fait en réalité complètement.
Qu'il a dû remanier plusieurs fois,
Et qu'il a remanié à plus, la version qui nous a été transmise, c'est la dernière version qui est la plus modérée finalement, puisqu'il a dû mettre
soft.
Il a dû patiner un petit peu la critique. Donc voilà, il y a à chaque fois des biais d'interprétation, des biais de l'écueil. Et on joue plus à ce moment-là, à la fin de la Troisième République, sous la Troisième République, on joue plus ou à la marge les comédies-ballets, qui sont vraiment le grand genre de la cour, ou alors quand on les joue, on enlève les divertissements, on enlève les remerciements au roi, et on enlève les dénouements. Ce qui, effectivement, resserre l'action sur une simple intrigue. Et donc, tout le génie de ces pièces, justement, est d'une certaine façon perdu. Donc il y a vraiment un travail de sélection, d'épuration, de réinterprétation qui permet de montrer en fait que ce théâtre se prête à peu près à toutes les interprétations.
Ouais. Martial Poirson, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio. On va continuer de célébrer Molière.
Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Bercoff, Céline Alonso.
You are the one for me, for me, for me formidable. But how can you see me, see me, see me, see me minable? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière, toi.
Eh oui, il vaut mieux choisir, quand on ne connaît pas bien la langue de Shakespeare, choisir plutôt la langue de Molière. Ce Molière incroyable qui était l'un des hommes les plus libres alors qu'il était près du pouvoir, Céline.
Eh oui, alors Martial Poirson, on parle, vous êtes un grand spécialiste de Molière. Comment Molière, il a pu être aussi libre alors qu'il était le favori du roi à l'époque, le roi Louis XIV?
Alors déjà, il ne l'a pas toujours été. Il ne faut pas oublier que Molière a quand même commencé par 2 ans d'expérience de théâtre à Paris, dans une troupe indépendante qui fait faillite, et à la suite de quoi il part pour une longue tournée qui durera quasiment 15 ans dans toutes les provinces, et en particulier dans le sud de la France, ce qui intéressera nos auditeurs, notamment dans l'Hérault, où il va en fait pas du tout vivre la vie de bohème, là encore un fantasme, mais vivre une vie quand même relativement nantie, puisqu'il est protégé par des personnalités importantes, en particulier le prince de Bourbon-Conti, qui est le frère du grand Condé, en fait, qui est un cousin direct du roi et qui va pendant 2 ans être son principal soutien. Il va se produire dans les états généraux du Languedoc, dans des grandes festivités publiques pour les députés. Donc il est déjà en fait dans une France des notables, mais en même temps aussi au contact de toutes les couches de la société française et dans une liberté relative. Mais à ce moment-là, il a très peu écrit. C'est à partir du moment où il rentre à Paris que véritablement il va être écrivain, et en particulier pour pouvoir faire vivre sa troupe. Et là, effectivement, va se poser le problème de la liberté d'expression dans un système où le théâtre n'existe pas sans le soutien de grands mécènes, qui sont principalement d'ailleurs des mécènes qui viennent du cercle de la cour. Mais et là, en l'occurrence, le roi lui-même. Mais la relation de Molière et le roi, qui a été un sujet de fantasme et qui l'est encore aujourd'hui, à en juger par les récentes fictions télévisées, c'est une relation de connivence de valeur, puisqu'à l'époque, Louis XIV est un tout jeune roi. Il vient de prendre le pouvoir à titre personnel. Il est amoureux de la Vallière. Il est un peu embarrassé par le protocole de la cour. Et donc, il trouve dans le théâtre de Molière, qui est quand même le théâtre de l'amour libre, qui est le théâtre de la question du sentiment, qui s'oppose au mariage pacte de famille, qu'il a lui-même
subi. Des jeunes générations, du conflit des générations.
Voilà, du conflit des générations, de la question du consentement, de la question de la séduction, opposée justement à l'étiquette, au protocole et au respect des impératifs. Donc évidemment, il y a un écho immédiat avec ce qu'il est en train de vivre dans l'embarras de sa fonction, et qui fait qu'il voit d'un très bon œil que Molière puisse dire tout haut ce que lui ne peut que penser tout bas, même si tout le monde est au courant évidemment de ses liaisons. Donc il participe vraiment à cette culture qu'on a appelée la culture galante, et qui est fondée sur la tempérance, l'honnête homme. Louis XIV est également un amateur des arts, comme peut-être aucun roi. Il danse, il chante, il fait de la musique. Quand Molière monte ses comédies-ballets, il monte ses comédies-ballets devant un très grand amateur en fait de spectacle vivant sous toutes ses formes. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est la façon dont Molière va se prêter à l'exercice donc de favori, de soutien officiel de la politique culturelle du roi, qui lui permet aussi de travailler dans des conditions qu'il n'aurait jamais eues autrement.
Bien sûr.
Le théâtre de la cour, ça permet des spectacles fastueux, et en même temps sans jamais faire preuve de docilité. J'en veux pour preuve, par exemple, un texte qui s'appelle donc Le remerciement au roi, qui est une petite scénette qui est publiée dans ses œuvres aujourd'hui. Et donc, Molière vient d'être gratifié d'une pension royale, donc il est normal qu'il vienne remercier son roi, et donc il doit faire un discours. Et puis ce discours, en fait, se transforme en scénette de théâtre, comme toujours chez Molière. Il fait théâtre de tout, et il explique qu'il a été réveillé par sa muse, qui lui a dit que quand même il fallait aller au Louvre à l'époque remercier le roi, donc il s'habille en hâte, il arrive au Louvre, il y a une foule de courtisans, et il finit par jamais pouvoir arriver jusqu'à la personne du roi. Et ça se termine comme ça, la dernière phrase, c'est « j'ai fait mon compliment ». Donc il y a quand même une irrévérence, un jeu de connivence connivence qui est tout à fait emblématique de cette relation qui n'est pas du tout une relation d'amitié ou d'intimité, comme on a pu le dire, mais qui est quand même une relation de respect mutuel et un accord aussi sur les valeurs, puisque le roi offre à Molière des conditions de travail inespérées et Molière offre au roi une renommée qui lui survivra.
Alors, certains ont prétendu que le roi l'avait invité un soir à dîner. Est-ce vrai ou faux?
Alors ça, c'est les mémoires de la Campan, en fait, qui racontent cette scène assez rocambolesque où Molière aurait été un peu rudoyé par les domestiques du roi, on l'aurait empêché de manger à l'office, et donc le roi, étant au courant de cette vexation, l'aurait invité à sa table un petit peu pour punir justement tous les courtisans, et lui aurait servi lui-même une cuisse de poulet. Donc ça, évidemment, c'est une très belle scène qui a été...
Si c'est pas vrai, c'est bien trouvé, quoi.
Oui, c'est très bien trouvé. Alors, il y a plein de peintres au 19e, il y a au moins 4 peintres qui ont fait des représentations monumentales de cette scène. Il y a une fiction récente de Secrets d'Histoire qui commence par ça, donc le mythe se perpétue. On sait que c'est faux, puisqu'évidemment, seuls, dans le protocole de la cour, seuls les princes de sang peuvent prétendre à l'immense honneur de siéger à la table du roi. Le roi ne va évidemment jamais servir lui-même qui que ce soit à sa table, et à plus forte raison un comédien qui, comme on le disait en début d'émission, jouit d'un statut qui est totalement déprécié en fait pour l'époque. Donc c'est une pure fiction, mais c'est une fiction politique et qui permet de créer une sorte de raccourci visuel et très très suggestif sur le plan de l'imaginaire sur une supposée intimité entre le roi et Molière, et par extension d'ailleurs, puisque la suite du mythe, c'est que cette scène a tellement vexé la cour qu'ensuite il aurait été victime de brimades, rudoyé. Il y a même quelqu'un qui raconte que un certain La Feuillade l'aurait frotté sur son habit jusqu'au sang et qu'il serait reparti le visage en sang de la cour. C'est de la fiction.
Mais ce qui est étonnant dans ce que vous dites, c'est-à-dire que cette espèce de connivence entre un comédien quand même, parce que le roi était quand même aussi dans les préjugés de son temps. Donc, il était quand même assez connivant, je ne dis pas frère, estime, avec un comédien. C'est intéressant, ça.
Le roi, il est quand même très conscient de son rang et de son rôle. C'est quand même celui qui a porté peut-être le plus loin la pompe royale et le culte de la personnalité dont il va faire l'objet. Hein, le roi soleil, solaire, qui, tel un astre divin, plane sur le monde. Le plus grand roi du monde, raconte d'ailleurs les comédies de Molière, ce qui a accrédité l'idée du poète courtisan. Mais en même temps, le roi, en tout cas jusqu'à la mort de Molière, ensuite il y a une deuxième partie de règne qui est beaucoup plus austère, qui est beaucoup plus dévot.
C'est le roi festif.
C'est le roi festif, c'est le roi danseur, c'est le roi noceur, c'est le roi libertin, qui donc a parfaitement conscience de la place qu'il a à tenir, mais qui quand même, en marge, joue sur toutes les libertés qui sont quand même relativement importantes que permet le système, et en particulier à la cour, qui paradoxalement est un espace de permissivité, pour lui en tout cas.
Oui. Alors, Martial Poirson, le gouvernement a refusé donc l'entrée de Molière au Panthéon. Pourtant, plusieurs élus et personnalités avaient formulé ce vœu. Vous-même, en tant qu'historien, vous étiez pour ou contre ?
Alors moi j'étais personnellement pour, mais il y a différentes façons d'être pour, donc je pense que, en tout cas la raison qui a été invoquée à mon avis n'a pas grande signification, puisque ça crée l'idée d'un clivage dans l'histoire, où tout ce qui est antérieur à la Révolution serait liquidé au motif que, ça fait fi de justement toute cette récupération républicaine de Molière, qui depuis quand même près de 2 siècles habite et l'école et les théâtres. Donc, et ça oublie qu'en 93, la Convention a signé, et ça n'a jamais eu de valeur exécutoire, le rapatriement des cendres de Descartes au Panthéon. Donc les fondateurs même de l'institution n'avaient pas du tout créé ce problème de partage. Ce n'était pas du tout cette vision discontinuiste de l'histoire. Je trouve que c'est comme si on punissait Molière une nouvelle fois, finalement, puisque en tant que comédien, il s'est vu refuser l'Académie française. Il n'est pas à l'Académie française, c'est quand même intéressant. Et en tant que comédien, finalement, on lui refuse aussi une institution où il n'y a quasiment aucun artiste. Au Panthéon, on a un peintre complètement inconnu aujourd'hui, et depuis quelques mois, Joséphine Baker, la première artiste véritablement de cette notoriété.
Avant, c'est que des politiques ou des...
Peut être des hommes de lettres, mais qui sont aussi des politiques, comme Hugo, comme Malraux, comme voilà. Donc je trouve que dans la nation des arts et de la culture, qui depuis 2 ans quand même souffre fortement, les théâtres ont été fermés, les musées ont été fermés, la culture a payé un très lourd tribut à cette pandémie mondiale, pour des raisons, pour le coup, de pure politique, hein, puisque les théâtres étaient probablement les lieux les mieux disposés pour pouvoir accueillir du public dans des conditions qui respectaient les barrières sociales, enfin les mesures d'éloignement social. Donc ça serait un acte symboliquement fort, Évidemment, Molière n'a pas besoin de ça. Évidemment, c'est ce que beaucoup de comédiens et d'acteurs disent et répètent, et qui sont d'ailleurs assez hostiles en fait à cette panthéonisation. Mais ça raconte aussi quelque chose sur l'idéologie du spectacle vivant dans notre pays. Et je pense que, à force de vouloir être dans l'éphémère spectaculaire, dans la représentation, dans la coprésence, bah, finalement, on se prive d'une entrée dans une des institutions qui sont quand même des institutions de la République.
Le Panthéon, c'est le fond et on veut rester sur l'écume. C'est une des symboliques de cela, quoi.
Oui, alors ça peut paraître un acte symbolique un peu vain, mais je pense que ça serait quand même un acte de réparation, compte tenu justement de ce qu'il a vécu. Et ça serait surtout un acte de réparation et de communion pour la société française. Hein. N'oublions pas que les gens qui fréquentent les théâtres, c'est quand même une petite minorité. Donc Molière va bien au-delà, finalement, des seules personnes qui peuvent en apprécier le génie en assistant à des représentations dans des théâtres tant publics que privés.
Encore qu'aujourd'hui, ça s'est multiplié, heureusement.
Ça s'est multiplié, mais ça reste quand même tout à fait relatif. Hein. On est très loin de la communauté nationale. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je pense que ça serait important. Et puis, et la dernière réserve, d'ailleurs, c'était l'idée qu'il n'y a pas de corps. Mais en fait, déjà, il y a d'autres gens au Panthéon qui n'ont pas de corps, à commencer par Jean Moulin, hein, qui a été brûlé.
Bien sûr.
Et qu'est-ce que ça veut dire de demander un corps? Est-ce que ce n'est pas une résurgence d'une vision
un peu religieuse? C'est un prétexte, ça.
Ça montre que la question de la géographie des saints, elle est encore très, très présente dans notre société.
Martial Poirson, merci d'être venu sur Sud Radio. Je rappelle que votre livre « Molière, la fabrique d'une gloire nationale » est paru aujourd'hui au Seuil. Vous publiez aussi avec Rachid Marail une bande dessinée intitulée « Molière du saltimbanque au favori » paru aux éditions Duno. Tout de suite sur Sud Radio, vous retrouvez Brigitte Lahaie. « Qu'est-ce que les femmes attendent d'un homme ?» Réponse dans un instant avec le sexologue Vincent Huppertan.